Maintenant, on poursuit notre tour du monde des étudiants et étudiantes confinés avec Jeanne et cette fois direction l'Italie. Hier, elle a pu échanger avec Laura Cazé, une étudiante qui était en Erasmus à l'IEP de Rennes, il y a quelques années de ça. Laura est aujourd'hui confinée à Sedico, un petit village à côté de la ville de Belluno, au nord-est du pays. Et quand le confinement a commencé, il y a 3 semaines en Italie, elle devait commencer son master Global Economics and Social Affairs à l'université de Venise et attend toujours pour pouvoir commencer ses cours à distance. Elle nous parle donc de la situation en Italie, de l'organisation des cours à distance dans les universités et de son quotidien de confiné.
Bonjour Laura.
Bonjour Jeanne.
L'Italie figure dans les pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Un confinement de la population a été mis en place depuis 3 semaines. Est-ce que tu pourrais me détailler quelles mesures ont été mises en place et comment le gouvernement a géré la crise?
Pour ce que j'ai pu voir, les mesures que le gouvernement a prises, elles étaient vraiment prises graduellement. Et je pense que ça, c'était bien d'un côté parce que comme ça, c'était pas trop choquant et aussi on a eu le temps de s'habituer à l'idée d'être renfermé et de ne pas pouvoir bouger. Et aussi pour organiser le travail, parce que comme ça, les gens ont eu moyen en fait de comprendre comment travailler chez soi, parce que c'est pas très commun de faire ça en Italie en fait. La possibilité de travailler chez soi avec l'ordinateur, c'est pas très utilisé. Du coup, les entreprises ont le temps de comprendre comment organiser ça, de voir si c'était possible pour les travailleurs, tout ça. Et aussi pour les parents, parce que ils ont fermé les écoles tout de suite. Du coup, les parents aussi ont le temps de un peu comprendre comment gérer les enfants à la maison, tout ça. Peut-être ça aurait été mieux de fermer tout de suite tout, mais ça aurait été vraiment un choc. Au début, ils ont dit, bon, il faut vraiment sortir seulement pour peut-être faire une promenade ou aller faire du footing ou aller à la pharmacie, faire des courses, tout ça. Donc, tout ce qui était considéré un peu la base, quoi. Et après, quand ils ont remarqué que il y avait quand même beaucoup de rassemblements dans les parcs et tout ça, genre des gens qui peut-être sortaient pour courir ou se balader tout simplement, en fait, ils respectaient pas la distance minimale de 1 mètre. Et du coup, ils ont décidé de interdire ça aussi. Du coup, je pense que c'était après 10 jours à peu près. Ils ont décidé de changer la règle. Du coup, là, on peut s'éloigner que des 200 mètres de sa propre maison, soit si carrément c'est pour aller faire des courses, machin. Sinon, là, oui, on peut s'éloigner que de 200 mètres. Il y a aussi des travails que c'est pas possible de faire chez soi. Du coup, là, on a le droit de continuer à aller au boulot, mais si la police nous arrête, il faut avoir une certification où on déclare que on est en train d'aller au travail, comme ça, et ils vont vérifier ça, et si c'est pas vrai, on va avoir des conséquences pénales.
Des amendes, en fait?
Oui, aussi, mais si c'est très grave, on peut aussi être condamné, genre, avec un procès et tout ça. Parce que ils considèrent ça comme, menace à la santé publique.
Donc l'Italie compte à ce jour plus de 12 400 morts. Comment est-ce que tu expliques, toi, ce phénomène? Comment ça se fait que l'Italie soit autant touchée par l'épidémie par rapport à d'autres pays?
En fait, l'épidémie en Italie a commencé dans une région qui est très industrielle, la Lombardie. C'est la région de Milano. C'est vraiment une région où les gens bougent beaucoup. Pas seulement dans la région, pas seulement dans les pays, mais aussi dans le monde, parce que c'est les centres industriels un peu du pays. Du coup, ça m'étonne pas que l'épidémie ait commencé là-bas. Et aussi, on a vu que l'épidémie s'est déroulée un peu dans l'axe Venise-Milan-Turin. Et du coup, c'est vraiment toute la partie nord d'Italie, les centres de travail, de production, d'entreprises et tout ça. Et je pense que c'était aussi grave parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, par exemple, travaillent à Milan, mais habitent à Bergamo, qui était une des villes les plus frappées par le virus. Enfin, il y a aussi beaucoup de gens... En italien, on dit pendolarismo. Je sais pas si c'est le même en français. C'est quelqu'un qui habite dans une ville à côté de la grande ville. Il se bouge chaque jour pour aller au travail. Il y a beaucoup de ça à Milan. Du coup, pas beaucoup de gens habitent vraiment dans la ville, mais à côté. Et du coup, ça fait que les gens prennent beaucoup de transports publics chaque jour et tout ça. Du coup, je vois très bien comment le virus a frappé vraiment beaucoup plus fort dans cette région.
Donc, ce serait plutôt la faute des flux de population. Est-ce que le gouvernement n'a pas mis en place de dépistage aux frontières des personnes qui venaient par exemple de Chine ou de pays à risque?
Oui, ils ont fait ça, mais en fait, ils ont fait ça que pour les vols directs de la Chine, pas pour ceux qui venaient par exemple d'Europe. Et ça, c'était pas malin, on va dire. Parce que il y a beaucoup de monde qui en fait change d'avion, par exemple en Allemagne où ils ont les grands aéroports. Et ça, c'était vachement récriminé, on peut dire, par l'opinion publique, parce qu'ils ont dit, ben, si vous allez contrôler la température à ceux qui rentrent de la Chine, il vaut mieux contrôler tout le monde parce qu'on ne sait pas les parcours que chacun mené pour rentrer en Italie. Et aussi parce que ils ont découvert que, enfin, un de les villes très très contaminées entre guillemets, c'était parti de l'Allemagne, enfin d'un citoyen allemand qui était venu en Italie et il était déjà malade. Et il y a aussi un moment dans les médias où il disait que, en fait, en Italie, apparemment, on était plus frappé par les virus parce que on faisait plus de dépistage par rapport, par exemple, à l'Allemagne, à la France. Et ça, c'était avant que la France commence à prendre toutes les mesures contre la diffusion de l'épidémie. Mais les médias, pour un moment, ils disaient que en Italie, apparemment, il y avait beaucoup, beaucoup de malades, mais parce qu'on faisait plus de dépistages.
Oui, donc vous aviez plus de morts ou de personnes contaminées référencées, mais c'est simplement que vous aviez plus dépisté, donc vous étiez plus au courant du nombre de cas.
Oui, c'est ça. En fait, ça, c'était un peu l'idée générale dans les médias au début. Mais là, je pense que les choses ont beaucoup changé aussi au niveau européen, parce qu'en France aussi, vous êtes en train, enfin, finalement, de prendre beaucoup de mesures pour éviter la contamination. Là, ils sont en train de penser de recommencer lentement à ouvrir les écoles, les entreprises et tout ça. Et ils sont en train de parler de faire, en fait, une réouverture où les gens qui sont malades vont rester chez soi. Parce que les problèmes, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des symptômes, mais ils sont malades. Du coup, ce qu'ils aimeraient bien faire les gouvernements, ça serait de faire beaucoup de dépistage, finalement, à tout le monde, pour que seulement les gens qui sont vraiment pas malades puissent recommencer à travailler.
Et ce serait possible de faire ça? Un dépistage massif comme ça? Le gouvernement aurait les moyens? Est-ce que les hôpitaux italiens pourraient supporter ça?
Je vois pas comment, en fait. Ça serait bien de le faire, mais je vois pas comment, parce que les hôpitaux sont déjà submergés de travail. Il y avait vraiment pas moyen de le faire, je pense. Aussi parce que si les gens doivent bouger, ça les expose les gens aux contaminations, non? Du coup, je ne sais pas trop comment ils vont faire ça. Mais c'était plutôt une idée. Un projet réel, mais je pense qu'ils sont en train d'essayer différents moyens de recommencer à produire parce que les gens sont vraiment concernés par la faute de travail, quoi.
Au niveau économique, c'est Ça se passe comment?
Maintenant, on est aux limites, je pense. Mais si on continue à rester tout fermé comme ça, là, ça va être des pires en pires. Aussi parce que l'Italie a déjà une dette très grande, une dette publique très grande, et là, ça va être des pires en pires. Surtout parce que beaucoup de gens qui travaillent dans un milieu pas spécialisé, genre pas dans les bourreaux, on va dire. Au début, ils voulaient qu'ils ferment parce que c'était vraiment un lieu où c'était très facile de s'y contaminer parce qu'ils travaillent vraiment tout proche. Mais là, ils se rendent compte que si une entreprise doit fermer pour plus que 2 mois, normalement, elle va devoir fermer. Et aussi tous les cafés, tous les bars, tout ça, ils n'ont pas moyen de rester ouverts après ça. Du coup, ils sont vraiment en train de essayer de trouver comment faire maintenant parce que ils n'ont pas moyen de gagner d'argent forcément. Et du coup, ils n'ont pas moyen de payer les travailleurs. C'est pour ça qu'ils sont vraiment en train de pousser pour qu'on puisse réouvrir les activités.
Pour revenir au confinement, pour l'instant, le confinement est prolongé jusqu'au moins à Pâques, le 13 avril prochain. Est-ce que toi, tu as pu anticiper le lieu où tu allais être confiné? Quand ça se passe? Où est-ce que tu t'es installé pour ce confinement-là?
Bah là, je suis avec mon copain. On est un peu dans une maison à la campagne entre guillemets, parce que au début, on avait pensé que ça aurait été bien d'être ici parce qu'on est proche de la nature, des montagnes. Parce qu'au début, on avait toujours les droits de sortir, faire des promenades, et du coup, on avait fait des plans de gros trekking comme ça. Mais après, ça a changé. Du coup, on est tout simplement enfermé dans une maison. Ça pourrait être n'importe quelle maison parce que du coup, ça change pas beaucoup de choses. On n'a pas moyen de profiter de la nature autour de nous.
Et vous êtes que deux?
Il y a aussi la sœur de mon copain parce que ici, il y a beaucoup de place. Quand c'est une maison qui est restée vide, elle est en train de travailler sur son mémoire d'architecture. Du coup, là, enfin, ici, elle a beaucoup de place pour travailler sur les dessins et tout ça. Du coup, c'est pratique pour elle.
Toi aussi, tu es étudiante, tu viens de commencer un nouveau master. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez un système de cours à distance qui a été mis en place?
L'organisation de mon master nous a proposé 2 solutions. La première, c'était d'attendre et de voir si c'était mieux de commencer en septembre, quand la situation normalement s'est rentrée à la normalité. Et sinon, commencer avec des courses en ligne. Et avec mes compagnons, on a décidé de commencer le plus tôt possible. Enfin, moi, j'étais pas trop d'accord, mais voilà. On est dans une démocratie. Et du coup, j'étais censée de commencer les 2 de mars. Et justement, c'était la semaine où ils ont commencé à fermer tout. Et du coup, l'université nous a proposé de commencer les 20 de avril. Mais en ligne. Et ils ont décidé de retarder un peu les débuts parce que j'aurais dû avoir en fait beaucoup de profs aussi provenant de tout le monde, de France, de Allemagne, Japon, tout ça. Et du coup, ça va pas être possible. Du coup, ils ont pris un peu de temps, genre à moi, pour organiser des courses en ligne. Du coup, mon université, en fait, ils sont en train de proposer 3 façons de faire des courses en ligne. Soit comme vidéoconférence, soit comme vidéo enregistrée qu'on peut regarder quand on préfère, soit comme simplement des enregistrements vocaux sans vidéo. Après, je pense que chaque université essaye de faire son mieux, mais c'est pas évident. Par exemple, ma sœur, elle étudie à Ferrara et je sais qu'elle est en train de suivre les courses, mais ils sont en train de télécharger sur YouTube des enregistrements des profs. Du coup, je pense que chaque fac, en fait, essaye de trouver vraiment une solution qui soit la meilleure, mais c'est pas évident. surtout parce qu'on n'était vraiment pas prête pour une période tellement longue, en fait.
Et du coup, pour l'instant, tu t'attends le début de ces cours-là. Comment est-ce que tu t'occupes tous les jours?
En fait, les organisateurs du master m'ont envoyé une liste d'articles et bouquins conseillés pour, entre-temps, commencer à entrer un peu dans les matières qu'on va étudier et tout ça. Du coup, j'ai lu beaucoup de ça. Sinon, j'ai fait un peu de sport. J'ai fait beaucoup de cuisine, carrément. Je fais des pâtes faites maison tout le temps. Et sinon, on joue à cartes, on joue à échecs, on fait des dessins. Aussi, la sœur de mon copain, en fait, elle avait déjà imprimé tous les dessins pour son mémoire d'architecture, justement. Et là, elle va, parce que en Italie, on expose notre mémoire à des profs. Du coup, c'est toujours en présence, il faut être là et c'est vraiment un peu un débat sur nos mémoires. Et là, ça va pas être possible. Et surtout en architecture, quand on doit expliquer les dessins et tout ça, du coup, elle est en train d'échanger tout ça pour qu'elle puisse expliquer tout ça en vidéoconférence, on va dire. Et du coup, elle a réutilisé tous les dessins qu'elle avait déjà imprimés pour faire des cahiers. C'est vraiment joli.
Et du coup, tu vis comment, toi, ça? Est-ce que cette période de confinement, tu prends plutôt genre avec philosophie, ou alors est-ce que tu, pour donner du temps, par exemple, à, je sais pas, à des activités artistiques, tout ça, ou est-ce qu'au contraire, tu trouves ça super frustrant et bah, t'as envie que ça se termine, quoi?
Bah, au début, j'étais bien, on va dire. J'ai pensé, ok, je vais quand même avoir beaucoup de temps pour prendre soin un peu de moi-même, de faire des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire normalement comme ça. Là, j'avoue que ça commence à être chaud parce que ça fait 3 semaines et on commence à être un peu au court d'idées, quoi, sur quoi faire. Je pense que hier, c'était la pire journée. Je me suis vraiment mis dans le canapé à regarder les vides. Mais il faut vraiment, vraiment rester positif, sinon ça va être terrible. Et bien sûr, j'ai envie que ça termine et pour recommencer à faire des choses qui soient pas seulement, on va dire, créative, mais ouais, ça commence à être pas trop évident de rester positif. Mais on essaye. Il faut essayer parce que sinon vraiment.
Et en Italie en général, enfin au niveau du climat, est-ce que tu sens que il y a justement cette frustration qui ressort, ou alors est-ce que les gens essayent de tempérer? Est-ce qu'il y a des crises de panique, ou est-ce que c'est plutôt calme?
Je pense que la question la plus grosse au début, c'était que les gens n'avaient plus les droits d'aller courir. Et donc, beaucoup de monde était, non, mais là, je veux aller courir, je peux pas rester chez moi. Comme ça. Mais là, je pense que les gens ont vraiment compris la situation et du coup, ils acceptent beaucoup plus de rester chez soi. Aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont normalement dans la vie des professionnels de sport. Ils sont en train de faire beaucoup de vidéos pour s'entraîner chez soi, et aussi les ministères de la santé recommandent de faire beaucoup d'exercices. Forcément, ils encouragent de suivre cette vidéo et tout ça. Mais en fait, ils ont commencé chaque jour à 18h. Chacun sort dans la fenêtre ou dans la terrasse et tout ça, et tout le monde applaudit les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, tout ça. Après ça, beaucoup de gens commencent à chanter, il y a beaucoup de concerts spontanés, on va dire, à la fenêtre, par les gens qui savent comment jouer quelques instruments. Et du coup, il y a beaucoup de ça aussi, et je pense que c'est bien, ça réchauffe un peu le cœur. Ça te fait sentir un peu tous ensemble. Parce que les gros problèmes, c'est que là, il y a beaucoup de monde qui peut-être habite tout seul, qui n'a pas une situation familiale, qui est heureux comme ça. Et du coup, vraiment sentir qu'on n'est pas seul dans ces moments, ça fait du bien, je pense. En Italie, on appelle ça le téléphone rose. Rose. Du coup, les victimes de violences domestiques ont la possibilité de appeler pour demander de l'aide. Et deux, que le confinement a commencé, les appels reçus par ces numéros ont vraiment tombé. Et ça, c'est forcément, c'est pas parce que les violences sont terminées, mais c'est parce que beaucoup de gens habitent dans une solution vraiment problématique, on va dire. Et du coup, ça, c'était aussi une grosse question, genre, OK, là, on est en train de quitter la possibilité à beaucoup de gens d'avoir une aide. Aussi, par exemple, il y a beaucoup de centres d'aide quotidien pour les gens qui ont peut-être des maladies, on va dire, au niveau mental, genre daily care, pour aider ces gens-là aussi, pour aider les familles, tout ça. Et là, ils sont fermés. Du coup, ça aussi, c'est chaud parce que c'est pas des situations faciles à gérer, surtout. J'ai fait un exemple, peut-être une maman qui doit travailler maintenant à la maison, mais aussi prendre soin de peut-être son fils qui a un autisme, tout ça. Du coup, c'est vraiment compliqué un peu de gérer tout cet aspect aussi de confinement.
Bah, merci beaucoup, Laura.
Merci à toi, Jeanne.
Laura Cazé, étudiante italienne confinée dans le village de Sedico, au nord de l'Italie. Merci encore à elle. Demain, on poursuivra notre tour du monde des étudiants confinés avec le témoignage de Guillaume, étudiant rennais tout juste rapatrié du Vietnam. Il nous racontera la situation là-bas et son retour en France.